Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de Boston Dynamics, qui a un nouveau robot qui est encore plus excito-flippant que l'ancien. Vous adorez les robots excito-flippants. Vous le savez, nous sachons. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien en ce jeudi matin? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que ça va chez vous? Quel retour d'hiver, j'ai envie de dire. Est-ce que cette petite journée de printemps qu'on a eu le week-end dernier, c'était juste une fausse alerte? Moi, j'avais commencé à ranger mes affaires d'hiver dans le lit-coffre. Et là, non, faut ressortir les doudounes, les pulls et tout, quoi. Ça, rien ne va, hein. Rien ne va. Et il pleut à Dubaï. C'est une catastrophe, là. Je ne contracte qu'avec Nowtech. T'as raison, c'est ici qu'on contracte. Est-ce que vous avez ressenti des contractions aussi en remplissant votre déclaration d'impôt? Ah, mais je vais... Mais vous, tout ça, alors, Gaël... qui nous dit que on va te manquer quand on sera au Japon, parce que je le rappelle, il n'y aura pas de live entre le 10 mai et le 24 juin 2024, puisque effectivement nous sommes au Japon et donc je préfère pas programmer des lives parce qu'il y a trop de d'inconnus, genre réseau. et puis en plus les horaires, c'est pas le même fuseau horaire, hein, parce que la Terre a beau être plate, je sais pas pourquoi il y a un changement d'heure. Moi je dis, je ne contracte pas sur le changement d'heure. Bref, tout ça pour dire, c'est à nous que vous allez le plus manquer en fait. Vous allez beaucoup, moi je pense avoir des phénomènes de manque les jeudis et vendredis matin. Il y aura des lives au retour, oui, bien sûr. Enfin, dès qu'on aura récupéré un peu du décalage horaire, même s'il risque d'être beaucoup plus dur dans le sens aller que dans le sens retour. Dès qu'on aura récupéré, on reprendra. On a mis 24 juin pour être tranquille. On rentre normalement 2-3 jours avant. Je dis normalement parce que les voyages, c'est toujours plein d'imprévus, hein, vous le savez. Et qu'il faut prévoir les imprévus. Voilà, voilà. Un grand merci, Eric Mi 14, pour ton 26e mois d'abonnement. Merci, Olivier SG, pour ton 38e mois d'abonnement. Merci, Okatax, pour ton 26e mois d'abonnement. Merci, Samuel, pour ton 49e mois d'abonnement. Un tonnerre d'applaudissements pour Samuel. Samuel, un des piliers sur lequel nous bâtissons notre temple. Parce que oui, nous sommes une secte. Et Samuel est un grand prêtre, absolument. Merci Chico Babette pour ton prime avant-hier. Merci, merci. Merci les contributeurs du matin. Le blip-blop va manquer, ouais, effectivement. Quel menteur, il va nous oublier vite fait. Ouais, tu parles premier sachet de Combini ouvert. Pff, vous serez loin. Ah! Vous serez loin. Je peux être l'Inquisition. Tu es le bras armé de l'Église, Olek. T'es le chevalier moine. On l'appellera Skippy, le grand gourou. Pourquoi Skippy ? À part le Japon, quel autre pays tu pourrais y aller professionnellement et pour les vacances? Oh ben j'ai un peu envie d'aller partout dans le monde. Il y a très peu de pays qui ne m'attirent pas. Bon, j'avoue qu'en ce moment, il y a des coins du monde où je n'irai pas. La Corée du Nord, je ne suis pas chaud. Après, professionnellement, les pays où on est susceptible de travailler, Bah, ça va être États-Unis, Angleterre, en Europe, d'autres pays européens. C'est vrai que on peut dire que sur la scène tech, Israël était bien positionné. En ce moment, je me vois pas aller faire une vidéo sur les startups israéliennes. Ça, c'est sûr. Quels autres pays? Après, tu vois, la Corée du Nord, parlons de deux trucs not popular opinion. Corée du Nord, bien évidemment, je serais intéressé. Je suis trop flippé pour y aller. Mais ça doit être intéressant. J'ai un rêve, effectivement, et j'avoue que bah, en ce moment, c'est pas trop réalisable. La Jordanie, Israël, l'ensemble de la Palestine, c'est des pays que j'aimerais beaucoup visiter, parce que j'aime beaucoup l'histoire, et que c'est des pays qui sont quand même hyper importants. Liban aussi, Syrie, c'est des pays que j'aimerais beaucoup visiter. C'est pas vraiment le moment. J'ai eu la chance. Alors, je peux pas dire que j'ai visité la Russie, mais je suis allé à Saint-Pétersbourg avant que la situation s'envenime. J'ai adoré. J'ai trouvé ça fascinant. Bien évidemment que le peuple russe et la Russie est un pays fascinant. J'aurais bien aimé aller ailleurs en Russie, Moscou, etc. Ça m'intéresse. Soyons positifs, on va attendre un peu. Voilà. C'est peut-être pas mort tout le temps, tu sais. Moi, je viens d'une génération. Je pensais pas, quand j'étais gamin, qu'un jour je pourrais aller en Russie. Tu sais, les choses changent, les choses bougent. Hein. Et paradoxalement, tu vois, les États-Unis, pourtant, c'est le pays de mon enfance. Si, j'aimerais bien me faire certains trucs aux États-Unis, mais c'est pas le pays qui m'attire le plus en ce moment, c'est clair. La Syrie, t'es matériel, on peut pas la visiter. Non, je parle de la vraie. Désolé, hein, mais. Quand je suis allé à Saint-Pétersbourg, oui, c'est sûr que le visa russe et tout ça, enfin, tu sentais le pays déjà un peu verrouillé, mais globalement, j'ai pas ressenti, tu sais, pour avoir fait des pays communistes comme le Laos, comme le Vietnam et tout, la Russie me semblait pas tellement plus surveillée, contrôlée, hein, à l'époque. Je suis parti quoi, en 2015 à Saint-Pétersbourg, je crois. Visiter le sommaire. Oh là là, ce que vous êtes procédurier. mais vous avez raison. Vous avez raison. On va parler de tech. Hein. On n'est pas une agence de tourisme non plus. Hein, même si on est un peu touriste de la tech. Et ben justement, mon premier article, ça sera un article sur le tourisme et le surtourisme des surmulots. Non, le surtourisme. Assez intéressant, Barcelone a fait disparaître une ligne de bus sur Google Maps, et les résultats sont plutôt positifs. Donc, on parlera un petit peu de ça avec Le Soir, journal belge, s'il en est. Mince, j'ai fait une connerie. Attendez. Ah non, me dites pas que j'ai perdu mon sommaire. Non, j'ai juste fait une connerie. Nous parlerons ensuite d'Heineken, la bière. Ils vont sortir un smartphone. Enfin, pas vraiment un smartphone. Ils vont sortir un dumb phone qui s'appelle le Boring Phone. Alors, pourquoi Heineken sort un téléphone? Eh ben, justement, on y répondra avec frandroid.com. Nous parlerons ensuite rapidement de WhatsApp, mes trois nouvelles sections pour classer vos conversations. Je me doute que vous êtes beaucoup, dont moi d'ailleurs, à utiliser WhatsApp. Donc, des nouvelles fonctions sont toujours bienvenues. C'est des filtres de discussion, en fait. Ah, j'ai oublié de citer, l'article viendra du blog du modérateur.com. Nous parlerons aussi de pourquoi le premier émulateur NES sur iPhone a été retiré après quelques heures. Ça, nous en parlerons avec Mac Forever et ça sera un peu le pendant de l'article suivant, un article de frandroid.com. L'iPhone accueille son premier magasin d'applications alternatifs. Nous l'avons testé. C'est la sortie, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'Alt Store. Premier App Store alternatif sur iPhone suite aux nouvelles règles européennes. Donc on verra de quoi il en retourne. Nous parlerons ensuite avec TechCrunch.com du nouveau robot de chez Boston Dynamics, leur nouvelle version du robot Atlas. Vous verrez, il est bien excito-flippant celui-là aussi. Hein, vous vous souvenez de Boston Dynamics, hein, régulièrement, les robots excito-flippants. Bah, il ne déroge pas à la règle. Il est très intéressant. Il est très intéressant. Il a un Dyson sur la tête. C'est un peu ça. Et l'article un petit peu où on passera plus de temps à discuter, j'espère qu'on aura le temps, sinon on le fera demain, mais je trouve ça très intéressant. Marion, vous avez parlé effectivement du lancement du... Comment il s'appelle ? De l'AIPIN, pardon. De l'AIPIN de Human, qui a reçu de très mauvaises critiques. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à critiquer les critiqueurs. Et il y a eu effectivement des échanges assez corsés envers MKBHD. On peut le dire aujourd'hui en termes de volume, le plus gros YouTuber tech, le plus grand YouTuber tech actuellement sur YouTube. Il s'est pris une vague de critiques de certains, l'accusant de faire, avec ses vidéos, de faire couler des boîtes. Vous verrez, c'est assez intéressant parce qu'on va parler aussi du choix des titres. Et là, je me sens carrément concerné. Pourquoi nous mettrons, pourquoi les YouTubers tech, et je vais parler que des YouTubers tech parce que c'est mon domaine, pourquoi on met des titres anglais, je vais pas anglais, anglais, avec de l'angle, ou des titres un peu radicaux, on va dire, alors que souvent les vidéos derrière sont plus nuancées. Et ça va être un débat justement assez intéressant. Marcus Brownlee, ouais, tout à fait. Je ne l'ai pas vu la vidéo qu'il a fait hier, mais justement, vous m'en parlerez parce qu'il a réagi par vidéo hier. On en parlera. J'espère qu'on aura le temps en fin d'émission. Sinon, je vous dis, on en parlera demain. ouais, il y a aussi, ben, justement, on en parlera, Gabi Sika, parce qu'il n'y a pas que le pin où il s'est fait critiquer, il avait fait une vidéo aussi sur une voiture en disant que c'était la pire voiture qu'il avait jamais testée, la boîte était en train de couler, bref, on parlera de tout ça. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, et on va commencer tout de suite en parlant de ce qui s'est passé à Barcelone. On reviendra sur la définition extranate de ce que c'est qu'un putaclic. Parce que c'est un mot qui sonne bien, mais je trouve que c'est un mot qui est souvent faux. Voilà, on en parlera. On va commencer effectivement par Barcelone, parce que ça, c'est intéressant. Évidemment, moi, en ce moment, en partant au Japon, je m'intéresse pas mal au problème de surtourisme. Problème de surtourisme, c'est là, j'ai envie de dire, messieurs les Japonais, hein, messieurs le Japon, ça va, vous avez un problème de surtourisme. Mais nous aussi, parce que quand on regarde dans les chiffres, le Japon est affolé parce qu'ils ont 35 millions de touristes. Si je ne me trompe pas, l'Espagne, je crois que c'est 80 millions de touristes. La France, je ne sais pas combien de touristes on a par an, mais je crois qu'on est très très haut dans le classement aussi. Et moi, travaillant dans un des endroits les plus touristiques de Paris, il y a des moments où tu as envie de dire « surréagissez pas ». Ça va, le surtourisme, ok, on connaît, c'est chiant par certains aspects, mais il faut se calmer. Hein. Et puis ça se gère. C'est 90 millions de touristes, ouais, la France. C'est pas la même surface. Va prendre certains escaliers à Montmartre et dis-moi si on a la place d'accueillir tous les touristes qui montent par là. Non, on a Paris, c'est pareil. Paris, même s'il y a eu le baron Haussmann, il y a des endroits de Paris qui sont encore très étroits et qui n'ont jamais été très adaptés pour la surfréquentation. Il y a des goulots d'étranglement à Paris avec le tourisme, la station de Trocadéro, un dimanche. En tant que Parisien, nous, on évite. Et justement, c'est ce qui s'est passé à Barcelone. À Barcelone, ils ont des gros problèmes de surtourisme aussi. Depuis des années, les riverains du quartier de la Salud, mon espagnol, il n'y en a pas, donc je vais certainement mal prononcer des trucs. Le quartier de la Salud à Barcelone se plaint de l'afflux de touristes à bord des bus de la ligne 116, rapporte le Guardian. Ces bus sont utilisés pour se rendre au parc Güell, pas comment ça se prononce, et sont généralement bondés par ces Barcelonais qui ne savent même pas rentrer. Sont tellement bondés que les Barcelonais ne peuvent pas rentrer chez eux. Le parc Güell est la deuxième attraction la plus visitée de la ville après la Sagrada Familia. Le conseil municipal, du coup, a décidé de demander à Google Maps et à Apple Plan d'effacer la ligne 16 des informations de Google Maps et d'Apple Plan. Au début, cette idée nous a fait rire, déclare César Sanchez, un activiste local au Guardian. Mais nous sommes étonnés, cette mesure a été hyper efficace. En gros, la ligne 116 a été libérée depuis qu'elle n'est plus indiquée comme moyen de transport, en fait, sur Google Maps et Apple Plan. Je suis très partagé. Parce qu'en gros, maintenant, tu vas avoir un peu des informations sur Google Maps, des informations de touristes. Et seuls les locaux vont savoir quelle est, par exemple, la ligne de bus la plus rapide pour te rendre d'un point à un autre. Est-ce que, je pose juste la question pour lancer un mini débat. La SNCF fait déjà ça sur son site pour déprécier des lignes. Ouais, mais justement, je parlerai d'un exemple parisien. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière une manière pour les municipalités de se défausser d'un problème plutôt par exemple de renforcer les transports en commun pour absorber le tourisme, ils vont effacer la ligne sur Google Maps. Alors oui, c'est efficace. Maintenant, je suis très partagé. J'aime pas beaucoup qu'on traite les touristes comme ça. Je suis vraiment quelqu'un qui pense que le tourisme et le voyage est une bénédiction du monde. Voyager ouvre l'esprit. Je mets de côté les problèmes écologiques du voyage, parce que c'est tout un autre débat, mais ne serait-ce que d'aller dans le village d'à côté, hein, on peut voyager en allant en France, voilà, etc. Découvrir de nouveaux horizons, c'est quelque chose de très important, c'est une question de moyens, je suis complètement d'accord, mais dès qu'on peut avoir les moyens de bouger un peu de chez soi, moi je trouve que c'est hyper important dans la vie. Parce que j'ai eu la chance, effectivement, de voyager. Et je considère que ça fait vraiment partie de moi. Donc, j'aime pas beaucoup l'étiquette qu'on colle aux touristes avec ce côté... mais c'est pareil, vous l'aurez compris, quand je m'en moque de ce côté, les Parisiens en Bretagne, etc. J'aime pas beaucoup. C'est facile, en fait, de voir l'étranger, l'invasion. On était mieux avant. Je ne vais même pas prendre l'angle des devises qu'on amène et l'économie qu'on fait tourner. Moi, je pense que le tourisme évite le renfermement sur soi. J'aime... Tu vois, je pense que, puisqu'on en est là, le Japon paye très cher des politiques d'enfermement aujourd'hui, économiquement. J'ai vu une vidéo hyper intéressante là-dessus. Et que c'est jamais une bonne idée, en fait, de se fermer au monde. Donc, bon, après, je vais faire l'avocat du diable. Bon, ils ont un problème, effectivement, les gens qui habitent. D'un autre côté, je vois aussi les méfaits du tourisme. J'ai visité Venise, qui est presque une ville morte. où il n'y a plus de vrais habitants dans la ville, ça fout le cafard, en fait. Je suis pas non plus pour que le tourisme prenne le pas sur la vie quotidienne. Et je peux comprendre, pour le vivre à Paris, les galères des transports en commun quand le tourisme t'empêche d'aller au boulot, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Mais je reviens sur la critique. Est-ce que c'est pas la municipalité de résoudre les problèmes? Est-ce que c'est vraiment un Google Maps et Apple Plan d'effacer les lignes pour empêcher les touristes de prendre certaines lignes, quoi? Ce que vous disiez tout à l'heure sur la SNCF et la RATP, oui, je peux vous le dire, étant parisien depuis plus de 30 ans, il y a certaines correspondances à Paris que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas parisien. Par exemple, je vais vous le dire, vous pouvez prendre la ligne 9 à Saint-Lazare si vous connaissez les couloirs, mais elle n'est pas indiquée parce que la RATP ne veut pas créer un engorgement. Donc, il y a certaines correspondances, par exemple, il faut que vous le sachiez, il y a certaines correspondances, entre guillemets, secrètes. Moi, je le raconte parce que c'est rigolo. J'ai découvert comme ça une correspondance à Saint-Lazare qui est toujours pas affichée 20 ans après. Je l'ai découvert lors des travaux. Est-ce que la ligne est supprimée de l'app du réseau de transport de Barcelone? Ça, je sais pas. J'y suis pas allé pour vérifier, mais. La troisième va vous étonner. Bah, en vrai, oui, quand tu habites dans une ville, bien sûr que tu vas connaître. Tu sais que, par exemple, tu vas éviter telle ou telle correspondance. Je sais pas, je vous donne un autre exemple. Sur la ligne 12, vous pouvez rejoindre la ligne 13, soit Madeleine, soit Saint-Lazare. Je vous conseille plutôt de le faire à Madeleine parce que la correspondance à Saint-Lazare, elle va être beaucoup trop longue. Voilà, des astuces qu'on connaît. Mais j'aime pas beaucoup, en fait, que les municipalités commencent à utiliser ce moyen. Après, je pense, pour revenir à des problèmes comme le Japon, Barcelone et tout ça, je suis pas contre les jauges de touristes. Parce que je pense qu'un endroit trop encombré, c'est une mauvaise expérience pour tout le monde. Je pense notamment à des villes comme Kyoto et tout ça qui ont des vrais problèmes d'engorgement dans des ruelles qui sont absolument pas faites. Je pense au Mont-Saint-Michel. Si vous avez fait le Mont-Saint-Michel, la montée du Mont-Saint-Michel quand il y a trop de monde, dans un truc moyenâgeux où tu frottes des deux épaules dans les ruelles, c'est un cauchemar. Moi qui suis agoraphobe, j'ai très mal vécu. Je suis pas contre, même si ça demande plus d'organisation, qu'on mette des jauges. Qu'on dise, on laisse tant de touristes monter à telle heure, vous avez qu'à réserver l'heure d'après, quoi. Oui, si tu le fais en novembre sous la pluie de Mont-Saint-Michel, ça va. Puis au moins, t'as une vraie ambiance. Mais... Donc, je suis très partagé, en fait. Je suis très partagé là-dessus. Je voulais m'exprimer là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas inciter les utilisateurs à utiliser les sites officiels de transport pour se renseigner en lieu et place de Google Maps? Oui, enfin, MMG7F. Il faut encore que les applications de transport local soient à la hauteur du tourisme. Parce que bien souvent, en termes de traduction, et parfois même, pour ceux qui sont allés au Japon, vous le savez, les sites internet japonais, parfois, je parle même pas d'un problème de traduction, parce que la plupart du temps, tu trouves quand même une version anglaise et puis ça peut être traduit, mais l'interface et l'ergonomie, waouh ! Le Japon, pour ça, est vraiment resté sur un web des années 2000. Hein. Pour certains trucs, hein, je parle pas de tout, mais t'as pas vraiment envie d'utiliser tous les trucs locaux, hein, vraiment. Hein. Bref, moi, tout ça pour dire, J'aime pas beaucoup qu'on fasse des règles spécifiques pour les touristes. Je pense que c'est aux municipalités de gérer le tourisme. Quelque part, elles en bénéficient du tourisme. Si elles n'arrivent pas à en bénéficier, c'est qu'elles s'organisent mal. Et si elles n'arrivent pas à gérer des flux touristiques, ben, il faut qu'elles y arrivent. Voilà, j'ai envie de dire. C'est trop facile de blâmer les touristes. C'est un peu mon propos. Et on commence à voir effectivement des trucs, moi, qui me choquent, les prix plus élevés pour les touristes. Bon, ça s'est toujours fait hein, dans les pays en soum-soum. Y a la carte des vins pour les touristes. Dans certains restos français, ça arrive aussi. C'est de plus en plus rare. J'ai rarement vu. Mais par exemple, c'est un fait assez connu au Japon que y a une petite taxe touristique dans certains restos, quoi. À Dunkerque, on n'a rien bloqué sur Google Maps et pourtant les touristes ne viennent pas. Alors, Dunkerque, secret du tourisme. Déjà, il faut vous créer des points de vue instagrammables. Donc là, vous avez du taf, déjà. Il faut mettre des balançoires. Voilà, il faut mettre des balançoires sur la plage. Hein, Dunkerque, faites ça déjà. Si vous pouvez un peu plus de soleil, démerdez-vous, c'est pas mon problème. Un peu plus de soleil, vos restos, hein, il faut plus de graines de chia, plus de graines de chia dans les menus, plus de trucs vegan, hein, ça c'est indispensable, plus de menus écrits à la craie, très important, hein, ça pour relancer le tourisme. Le point de vue instagrammable de Dunkerque, c'est le quai du train qui te sort de là. Oui, la mer. Mettez du colorant bleu dedans. Démerdez-vous. Mais il faut que ça soit bleu. Ou alors, plus fort, vous lancez hashtag Brown Sea. Brown Sea is beautiful. Voilà. L'idée vient de moi. La mer caca, c'est beaucoup plus joli. Voilà. En vrai, Dunkerque, il y aurait des trucs à faire. Ne serait-ce, y a quand même eu un film qui a fait reparler de Dunkerque. Il y a de l'historique. À mon avis, jouer la carte historique à fond, il faut faire... je pense qu'il y en a un musée, mais il faut faire des reconstitutions, il faut faire un truc, quoi. Poupsi, hashtag poupsi. On parle déjà de Marques Brown, si, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on continue. Mais problème intéressant avec une solution technologique qui pose débat. On va parler de bière. Non, on va parler de téléphone. Mais on va parler de bière. Parce que Heineken, qui est déjà une bière un peu boring, on peut le dire, lançons la polémique. Non, Heineken, c'est pas mauvais, mais enfin bon, c'est un peu la bière parce que tu prends parce qu'il n'y a pas d'autre bière. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est pas ouf, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. C'est comme la Bud, quoi. C'est de l'eau. C'est parfait pour faire des pièges à gay. Bref, tout ça pour dire Heineken lance le Boring Phone. Ah oui, si tu rajoutes du picon, mais tout va bien hein, en rajoutant du picon. C'est une bière de soif, voilà, exactement. C'est une bière à eau, quoi. Bref, tout ça pour dire, il lance un Boring Phone, littéralement le téléphone ennuyeux. C'est Human Mobile Device AMD. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une boîte qui fabrique les derniers Nokia dont on a parlé. Bref, tout ça pour dire. Le Brasseleur veut mettre entre les mains des consommateurs un appareil qui les sorte de leur univers numérique. Ce Boring Phone sortira en série limitée, a été créé pour encourager les gens à profiter de meilleures connexions avec la vie réelle lors des soirées en les déconnectant de leur smartphone. Je vous montre la pub, elle est ultra rapide. Si elle veut bien se lancer. Yep. Vous n'avez pas le son, mais... Voilà, ils disent les smartphones sont trop captivants. Eh bien, nous, on lance le Boring Phone qui vous permettra de vous concentrer sur vos amis et surtout d'acheter de la bière. Voilà. Côté écran, on aura un truc d'une résolution de 320 par 240 pixels, un appareil photo de 0,3 mégapixels. J'ai envie de dire, pourquoi mettre un appareil photo à ce nombre de mégapixels? Enfin, à ce niveau-là, autant ne pas en mettre, mais bon. Et une lampe. Bah oui, parce qu'il peut faire sombre dans un bar. Une semaine de veille, 20 heures en conversation. Hein, c'est sûr que ça, c'est les autonomies des dumbphones. 5000 unités seront produites. Donc, on sent bien qu'on a plus à faire un coup marketing qu'à Heineken qui cherche à se lancer sur un nouveau business. Voilà. Après, là où ils n'ont pas tort, c'est qu'il y a un vrai marché et un marché en expansion. Il y a une clientèle qui revient au dumbphone. D'abord, il y a une clientèle qui n'a jamais quitté les smartphones à clapet. Les téléphones à clapet, les téléphones mobiles non smartphones. Il y a des gens qui sont restés fidèles à ça parce que c'est aujourd'hui complètement imbattable niveau autonomie. Et si tu as besoin d'un téléphone, surtout pour appeler, éventuellement envoyer des messages, pour appeler et écrire, on ne fait rien de mieux qu'un dumbphone. Moi, j'y pensais même l'autre jour, vu que j'aime bien avoir un téléphone de secours. Pourquoi je ne prendrais pas un dumbphone? Après, je me suis tout de suite dit, oui, mais une partie de ton boulot, c'est les réseaux sociaux. Donc, non, un dumbphone ne te servira à rien. Mais rien que pour avoir un truc que j'ai quasiment jamais à recharger, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une génération de gens plus jeunes aujourd'hui. Après, il y a un côté très hype hein, à acheter un vieux téléphone à clapet chez les plus mods. C'était drôle parce que l'autre jour, je suis passé un peu dans une foule. C'était la semaine de la mode, là, machin. Donc, je m'amusais à regarder et les tenues. Et beaucoup, effectivement, avaient des téléphones à clapet. Et tu sens qu'ils en chient quand même, leur téléphone à clapet. Ils en chient un peu, mais c'est pas grave. Ça fait trop cool d'avoir un téléphone à clapet à l'ancienne. Et ils avaient tous des appareils photo, bien sûr, analogiques. Argentique, des appareils photo argentiques. Donc, prochaine photo, quoi. La classe. Non, mais c'est drôle, mais c'est normal. Pour donner, je sais pas, une analogie... Oui, argentique. Pour donner une analogie de mon époque, moi, à mon époque, on utilisait des briquets Zippo qui dataient de la guerre, qui sont des trucs où tu as une chance sur deux de... qu'il y ait de l'essence qui se répande dans ta poche. Et parfois, quand tu allumais ton Zippo, on avait un peu de partout. C'est des briquets. C'est bien, hein, tu peux les allumer dans la tempête. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour être à la mode, on prend parfois des objets vintage qui sont moins pratiques que les objets modernes. Quoi. À l'ancienne. Ouais, pour moi, les vrais, c'est ceux qui utilisent des appareils photo à soufflet en bois avec le trépied obligatoire et le petit rideau que tu te mets au-dessus de la tête. Ça serait classe. En vrai, il y en a qui le font. Bref, vous l'aurez compris, on est surtout face à une campagne de pub hein, de la part d'Heineken qui vous dit « lâchez votre smartphone » parce que ça, c'est un message très populaire en ce moment. « Lâchez votre smartphone, buvez de la Heineken ». Ce à quoi j'ai envie de répondre, jusqu'à preuve du contraire, une addiction à votre smartphone est quand même vachement moins dangereuse qu'une addiction à la bière. Voilà. Je dis ça, je dis rien. On va pas partir dans les problèmes d'addiction à des substances dangereuses. Mais l'alcool, même s'il est en vente libre, si vous commencez à boire une Heineken chaque fois que vous avez envie de consulter votre smartphone, ça peut très très mal se terminer très 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 vite pour vous. Voilà. Donc, ouais. Hein? Ouais. Je trouve que notamment ces marques d'alcool à qui on a interdit de faire de la publicité, on devrait pas les laisser faire ce genre de choses. Parce que ça, c'est de la publicité détournée envers une clientèle jeune pour rendre l'alcool cool. Voilà. Ouais, alors là, vous allez pouvoir me sortir tous les trucs scientifiques que vous voulez. Je suis désolé, mais tu bois une Heineken, tu bois plusieurs Heineken par jour. Ta cirrhose, elle arrive beaucoup plus vite que tes problèmes de vue parce que tu as un smartphone ou de concentration, hein, ou même de problèmes psychologiques. Je veux dire, l'alcool tous les jours, c'est ça le vrai danger. Et une Heineken par jour, ça va vite vous mener à des très gros problèmes. C'est pas forcément de boire beaucoup ou d'être ivre. C'est de boire une bière par jour n'est pas une bonne idée. Boire de temps en temps, de manière festive, pas de problème. Mais une bière par jour, même qu'une bière par jour, bah demandez à un médecin. Non, c'est pas la peste et le choléra. Je suis désolé. Alors, désolé, hein, peut-être que mon opinion n'est pas populaire, mais comparer la dangerosité d'un smartphone à la dangerosité de l'alcool, alors là, je suis désolé, je ne vous suis pas du tout sur ce terrain. Franchement, là, je pense que vous... Et je suis désolé si ça déplaît à certains, mais demandez à un médecin l'effet sur votre foie d'une seule bière par jour, si c'est tous les jours, même le dimanche. Donc, ok, je suis peut-être pas populaire en disant ça, j'en froisse peut-être certains, mais je vous garantis que c'est beaucoup plus dangereux que de regarder son smartphone. Donc, comparez ce qui est comparable quand même. C'est bien joli de dire que le smartphone est dangereux, et je veux bien ce débat. Enfin, il faut comparer les dangerosités quand même, hein. Il y a peu de morts quand même à cause d'un smartphone, à part ceux qui se font un selfie devant un train. Ou qui oublie de s'alimenter. T'en as peut-être un par an. Combien de morts de l'alcoolisme et même l'alcoolisme de gens qui savent pas qu'ils sont alcooliques, juste parce qu'ils boivent une bière par jour. Voilà. Bref, merci Kinekoda pour ton Prime, merci Rogue pour ton 33e mois d'abonnement, merci Giwi pour ton 16e mois d'abonnement, merci Jurassic Pork pour ton 37e mois d'abonnement, merci Fabrice M1976 pour ton 37e mois d'abonnement, merci à vous les contributeurs. Ouais, non, franchement, je suis désolé. Vous comparez deux choses pas comparables en termes de dangerosité. Et je suis. Non, je suis pas désolé si j'en ai froissé certains parce qu'ils ont une consommation régulière d'alcool tous les jours. Moi-même, j'ai des problèmes d'addiction aussi. Je me cache pas derrière mon petit doigt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. OK? Voilà, allez, on continue sur l'article suivant. Franchement, je comprends pas qu'on puisse comparer une cirrhose du foie qu'on peut choper jeune à des problèmes que peuvent poser les smartphones. Quand un smartphone by now tech, jamais de la vie. Si c'est pour se faire tester par MKBHD derrière, on va se faire démonter la tête. Ce qui va vous démonter la tête aussi, c'est WhatsApp. WhatsApp qui va offrir trois nouvelles fonctions. Je vais vite là-dessus, mais c'est pour vous tenir informés. Je sais que moi, j'utilise même, honnêtement, j'ai résisté pendant plusieurs années à WhatsApp, mais force est de constater que c'est super pratique, notamment quand on organise un voyage. Vous le verrez bientôt dans une vidéo, j'en parle. Et que WhatsApp est quand même pas si mal. Et surtout, c'est moi, en tout cas, dans mon entourage, ils sont un maximum à utiliser WhatsApp. Donc, je suis allé là où j'avais un maximum de contacts. Je sais que Signal est mieux, mais j'ai trop peu de contacts qui l'utilisent. Je n'ai pas l'influence nécessaire pour faire déménager mes contacts sur d'autres apps de messagerie. Trois nouveaux filtres pour organiser vos conversations. Il y aura un filtre toutes. Cet espace correspond à l'organisation actuelle et intègre l'ensemble des discussions. Mais vous pourrez aussi basculer en mode non lu. Cet espace est dédié aux messages qui n'ont pas encore été ouverts. C'est vrai que ça pouvait être laborieux quand on a plusieurs groupes de conversations de trouver ces messages. Groupe, ça vous permet effectivement de voir uniquement les conversations de groupe qui bénéficient désormais d'un onglet dédié dans l'application. Les filtres sont visibles dans la partie supérieure de l'application. Vous le voyez ici. Voilà. Vous aurez vos filtres ici. Donc voilà, WhatsApp se modernise, c'est pas plus mal. Et oui, c'est vrai qu'au niveau des réservations, de plus en plus, par exemple, d'hôtels ou de Airbnb utilisent WhatsApp pour être en contact avec vous. Donc, c'est quand même assez pratique. On passe à l'article suivant, article de Mac Forever. Pourquoi le premier émulateur NES sur iPhone a été retiré après quelques heures? Alors, c'est une histoire assez cocasse. Début avril, Apple avait déjà autorisé l'arrivée des émulateurs sur iOS et iPadOS. Ce week-end, les deux premiers programmes avaient débarqué sur l'App Store. Emu 64XL, qui émulait un Commodore 64, et IGBA GBC Retro Emulator pour la Game Boy. Mais quelques heures plus tard, ces derniers étaient déjà retirés du magasin. Apple avait expliqué qu'il y avait quand même des problèmes de droit d'auteur. C'est-à-dire qu'en gros, Apple maintenant autorise techniquement sur le store un émulateur, mais manifestement, les problèmes de copyright, de droit d'auteur, ne sont pas résolus. Et l'histoire la plus éponyme de ça, c'est ce qui s'est passé avec l'émulateur de la NES, Nintendo Entertainment System, qui a été approuvé, mis à disposition hier, donc ça, l'article date d'il y a quelques jours, sur l'App Store. L'émulateur s'appelait Bimi et il a été développé par Tom Salvo. Comme son nom ne l'indique pas, c'est un développeur japonais. Mais voilà qu'il a été retiré à son tour quelques heures après avoir été disponible. Ah oui, éponyme, pardon. Oui, je me suis trompé de mot français. C'est pas grave. Et en fait, c'est pas Apple qui l'a retiré, c'est le développeur qui spontanément a retiré son émulateur NES de l'App Store. Le développeur précise sur les forums de MacRumor qu'il n'a subi aucune pression d'Apple ni de Nintendo. En gros, il dit « Non, non, j'ai pas subi de pression, mais il a préféré ne pas courir de risque. Il s'est dit vraiment désolé d'avoir créé tant d'espoir à tout le monde, mais espère que d'autres développeurs plus courageux que lui reprendront le flambeau. » Ça a le mérite d'être franc. En gros, il a eu très peur. Tellement peur qu'il dit qu'il n'a pas subi de pression. Et c'est exactement ce que j'ai pensé, docteur Rictus. Quand Yakuza vous met un sabre sur la gorge, généralement, vous allez écrire « Je ne subis aucune pression, d'aucune sorte. Mais néanmoins, je vais faire exactement ce qu'on m'a dit de faire. » Et je ne serais pas étonné que Nintendo ait envoyé quelques Yakuza, ouais. Disons qu'on le sait, hein, le Nintendo, ils ont des manières de foutre la pression. Tu sais, aussi bien, ils lui ont juste envoyé un message passif-agressif. Peut-être que quelqu'un de haut placé chez Nintendo lui a juste envoyé un SMS en lui disant « Tiens, C'est quoi ton Pokémon préféré ? Point d'interrogation. Voilà, juste question innocente. C'est quoi ton Pokémon préféré ? Parce qu'on va le tuer. Voilà. Voilà, voilà une manière pour Nintendo de mettre la pression. Tortank, on va le faire exploser. Je m'y connais pas en Pokémon. Et là, tu réponds, désolé, je joue à Palworld, moi, les Pokémon, c'est so has been. Donc, ouais, il s'est réveillé avec une tête de cheval dans son lit. Ouais. Référence au film Le Parrain. Tout à fait. Donc, ouais. En gros, Apple autorise les émulateurs. Maintenant, faut avoir manifestement le cœur. Quand tu vois que même un émulateur du Commodore 64, ils ont foutu la pression pour qu'ils soient enlevés. Donc, il y a toujours des ayants droit hein, du Commodore. Voilà. Et quand quelqu'un vous dit « je ne subis aucune pression extérieure », c'est généralement qu'il en subit. Et je ne pense pas que c'est Apple. Je ne pense pas que c'est Apple qui lui ait dit « écoute, ton émulateur ». Parce que sinon, Apple ne l'aurait pas laissé le sortir. Je pense que tout de suite, quand c'est sorti, il a reçu une visite de Nintendo. Ou en tout cas, il y a Nintendo qui lui a juste fait « Eh oh !» Et là, le mec, « Ah, ok, je vais retirer ça tout de suite de l'Apple Store. » Ouais. L'émulation, les gars. Depuis que l'émulation existe, j'entends ce genre de choses. En fait, on confond tout. Mais non, globalement, vous n'avez pas le droit de faire un truc qui simule, même si ça ne porte pas le nom Nintendo ou quoi que ce soit. Enfin, là, vous êtes dans des territoires gris. Et des territoires gris, il y a toujours des gens pour dire que bah, si, c'est légal parce que c'est gris. Non, c'est gris. Je pense que vous risquez rien si les brevets sont abandonnés. Mais c'est peut-être légal, effectivement, dans un cadre ultra théorique. C'est genre légal si tu fais tourner aucun jeu, peut-être, tu vois. Donc peut-être que d'avoir un émulateur, c'est légal, mais de l'utiliser, c'est pas légal. Tu vois, c'est ça qu'on appelle les territoires gris. Mais en plus, vous confondez tout. Il y a le fait que vous utilisez un émulateur. Ça, bon, c'est une chose. Parce que des gens vont dire « Oui, mais j'ai la console, j'ai le jeu, donc j'ai le droit d'utiliser l'émulateur et le jeu pirate. » Oui, mais ça, c'est un problème. Moi, je vous parle déjà du fait d'avoir le droit de développer un truc qui émule les capacités d'un appareil, d'un ayant droit. Donc, confondez pas la légalité de ce que vous faites avec la légalité du développeur. C'est comme si vous disiez, il est légal pour moi d'avoir un jeu pirate si je possède le vrai jeu, mais ça rend pas du tout légal le fait que des gens piratent des jeux. Ou en tout cas cassent les protections d'un jeu. Mais j'entends toujours ce truc et toujours ces histoires. Mais si c'est légal de le faire, honnêtement, tous ces trucs-là, c'est des zones grises. C'est des zones grises qui, d'un jour à l'autre, d'une jurisprudence à l'autre et d'un pays à l'autre, peuvent aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, voilà, c'est juste de la zone grise, en fait. C'est légal d'émuler avec un émulateur dans le cas où pour faire tourner un jeu que tu aurais développé toi-même. Vous voyez, en fait, tout le monde a sa définition. Voilà, la création et l'utilisation d'émulateurs en eux-mêmes ne sont pas illégales si ces émulateurs ne contiennent aucun logiciel ou BIOS protégé par des droits d'auteur. La difficulté survient lorsqu'un émulateur doit reproduire des logiciels spécifiques à une console, comme son BIOS, qui sont souvent protégés par des droits d'auteur. Reproduire ces éléments sans autorisation est considéré comme une contrefaçon. Voilà. C'est la réponse de ChatGPT. Ouais, mais ChatGPT, t'es déjà illégal toi aussi, donc... Bref, voilà, hein, les zones grises, les fameuses zones grises. Allez, on enchaîne, et justement, on reste un petit peu dans le sujet. On a vu effectivement arriver le premier magasin d'applications alternatifs, et Frandroid l'a testé. Vous le savez, avec maintenant les règlements qu'il y a dans l'Union européenne, et il n'y a que en Union européenne où on a le droit maintenant sur iOS, pour l'instant, parce que les États-Unis commencent à y réfléchir, mais pour l'instant, il n'y a que en Union européenne où on a le droit maintenant d'installer un App Store alternatif sur son iPhone. Alors je sais, hein, beaucoup d'entre vous vous dites on ne le fera jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Le 17 avril, l'App Store a été validé par les équipes d'Apple. Donc Apple, contraint et forcé, a validé un App Store alternatif parce que Apple veut quand même le contrôle de sécurité sur les App Store alternatifs. Donc il vérifie, mais surtout sur les questions de sécurité, qu'un App Store alternatif ne mette pas en danger le fonctionnement de base d'un iPhone. Et ça y est, on peut installer Alt Store, donc c'est le premier. Alors attention, le téléchargement ne se fera pas à travers l'App Store officiel, mais directement sur le site officiel altstore.io, et il faudra payer. Il vous en coûtera 1,5€ par an, soit 0,125€, donc centimes, par mois pour acquérir ce store alternatif. Ce tarif modique vise probablement à décourager les téléchargements impulsifs. Je pense qu'ils ont surtout mis ce prix-là pour éviter, notamment les premiers jours, des téléchargements de masse. Parce que effectivement, si c'est pour rien en faire, t'as pas envie de dépenser même 1,5€ juste pour voir ce que ça fait, quoi. Donc, je pense qu'ils ont eu raison là-dessus, en tout cas au début. Et surtout, vous savez que maintenant, il y a des nouvelles règles chez Apple. C'est-à-dire que si vous dépassez le million de téléchargements, ça coûte cher maintenant chez Apple. Donc, je pense que l'App Store veut limiter la casse en limitant le nombre de téléchargements. Ah oui, alors vu de votre côté, on ne paye pas pour rentrer dans un magasin et tout. Vous savez aussi les problèmes des trucs gratuits que tout le monde télécharge le même jour. Et n'oubliez pas, imaginez, c'est un magasin où le propriétaire des murs vous dirait « Ok, tu fais ton entrée libre pas payante du magasin, mais à partir du moment où tu as 1 million de personnes qui rentrent dans... » Ou, comparons, à partir d'un millier de gens qui rentrent dans ton magasin, bah, tu me dois 50 centimes par nouvelle personne qui rentre. Voilà, tu vas peut-être faire une entrée pas open de ton magasin. Donc, vous voyez, faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, en fait, sur ce magasin alternatif... Alors, d'abord, l'expérience... on sent qu'Apple, ils font pas ça de bonne grâce. C'est-à-dire, ce que nous disent les gens de Frandroid, c'est que pour installer Alt Store, donc le magasin alternatif, ils ont dû passer par 6 écrans différents d'avertissement d'Apple, genre ça va mettre en danger votre iPhone. Voilà. Donc faut être un peu. Voilà, il y a beaucoup de choses pour décourager encore les gens de mettre une App Store alternatif. Actuellement, l'App Store propose seulement deux applications Delta, une application basée sur GBA 4 iOS, qui est un émulateur populaire pour les consoles. Bah voilà, un émulateur populaire pour les consoles. Clip, un gestionnaire de presse-papier qui permet de regrouper tous les éléments copiés de l'iPhone. En vrai, ça m'intéresserait carrément. Je trouve que le presse-papier est très en retard sur iOS. J'aimerais bien un presse-papier beaucoup plus moderne avec un historique. Mais bon, bref, il est sur mon iPhone. Il est également possible de connecter son compte Patreon dans les paramètres de l'App Store pour accéder à des versions bêta et devenir un Patreon, donc pour aider les développeurs. Bien que le lancement de l'App Store soit modeste en termes d'applications disponibles, il marque un tournant historique sur iOS. En effet, il s'agit du premier App Store alternatif officiel et validé par Apple à être installé sur un iPhone. Reste à savoir si cette ouverture annonce l'arrivée de nouveaux magasins d'applications tiers et une plus grande diversité dans l'écosystème iOS. On verra. C'est un peu comme la ligne de bus cachée. Qui est derrière ? Bah, c'est une bonne question. Je crois que ça y répond, l'éditeur. Je crois qu'ils y répondaient dans l'article. Je n'ai peut-être pas surligné. Il y a une boîte, effectivement, derrière. Mais c'est une bonne question. Retour du Shadow. Bah, Shadow a toujours été là. Hein. Il n'a pas disparu, Shadow. Ouais, non. Shadow n'a pas disparu. Ce que Shadow a dû faire pour revenir dans l'App Store, c'est enlever la surcouche qu'ils avaient mis qui permettait de lancer directement les jeux. Mais ça aussi, Apple, maintenant, doit accepter le cloud gaming. Donc ça aurait changé, ouais. Bah en fait, ce que ça peut changer, Technique Savoir, c'est que certains App Store alternatifs, d'abord, bah, ça permet de contourner la taxe Apple sur les apps, d'une certaine façon, et aussi certaines réglementations, enfin, pas des réglementations, mais on sait que l'App Store est très dur. Il y a certaines applications, tu pourras jamais... Je prends l'exemple d'une application porn. Pas possible sur l'App Store d'Apple. Ah là, tout de suite, quand je dis porn, il y en a qui dressent l'oreille. Tant que c'est que l'oreille, ça va. Pff, très mauvaise blague de boomer, on va dire. Mais voilà, là-dessus, un App Store alternatif pourra avoir d'autres règles que celles d'Apple. Effectivement, Fortnite, ben, on l'a vu, on en a parlé là, il y a 2 semaines. Epic qui veut lancer son App Store alternatif sur iOS maintenant. Oui, on en a parlé. Pour l'instant, il n'y a que 2 applications sur cet App Store alternatif, mais c'est le début. GeForce Now, je ne sais pas s'ils ont sorti leur app dédiée, mais de toute façon, ça marche dans un navigateur, GeForce Now. Donc, ça marchait. Hein. Enfin, ça peut marcher dans un navigateur. Donc voilà, ça va permettre aussi... vous savez, c'est exactement comme du jeu indé. S'il n'y avait que des gros éditeurs de jeux qui avaient le droit de sortir des jeux, ben, on n'aurait pas des jeux indés. Donc ce débat sur est-ce que des App Store alternatifs doivent pouvoir exister, moi je pense que oui. C'est une question de liberté aussi. Oui, de toute façon, je ne suis pas un boomer, David. Techniquement, je suis génération X. Je ne suis pas un boomer. Mais bon, on va dire que l'expression consacrée pour dire blague de vieux, c'est blague de boomer. Boomer est devenu un générique de vieux. Bingo ! Eh oui, ça y est, il a expliqué ce que c'était. Les différents que boomer n'est qu'une génération. Oui, parce que les modérateurs font un bingo hein, sur mes répétitions. Allez, on continue. On va parler de robots qui font peur. Boston Dynamics. Ça vous dit quelque chose? Des robots qui font peur. Alors, on va regarder un peu la vidéo. Je ne veux pas lire l'article. Donc, Boston Dynamics annonce qu'ils abandonnent Atlas. Leur premier robot... Alors, on va passer juste le moment où lui parle. Enfin, je vais laisser tourner. C'est le mec de TechCrunch et on va voir les images. Donc, Boston Dynamics, c'est ça. Vous reconnaissez, hein, ce chien robot acquis. Et surtout, Atlas. Atlas, vous vous souvenez? Bon, alors là, ils ont pris quand ils se cassent la gueule, mais Atlas qui dansait, voilà. Ça, c'est la première génération d'Atlas. Eh bien, Boston Dynamics, et regardez, c'est lui. Alors, il est couché. Et regardez comme il se lève, le nouvel Atlas. Tan, 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 tan. C'est exactement comme ça que je me lève le matin, moi. OK. OK. Alors, revenons sur cet extrait. On va repasser ça, parce que je crois que tout le monde n'a pas compris. Attention, c'est très court. Il est livré à plat, et voici comment il se lève. Là, je veux dire, il y a des gens qui font du yoga qui sont en PLS, là. Jamais vous pourrez faire ça. Alors, c'est hyper intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Le fait que... Tiens, on va peut-être regarder la vidéo de... Je reviendrai sur celle-là. Attendez, est-ce que je peux y aller? Attendez, je vais sur YouTube. Ah, je ne peux pas aller sur YouTube. Pourquoi je ne peux pas cliquer sur cette vidéo? Putain, c'est nul. Attendez, je vais voir si je la trouve sur YouTube directement. Voilà. Alors, hop, on va la regarder avec précision. Donc, il vous livre en fait un robot mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je trouve mécaniquement Boston Dynamics est allé plus loin que nos articulations. C'est-à-dire, oui, ce nouveau robot a une forme humanoïde, mais il est mieux que nous. C'est-à-dire, nous, finalement, on est limité par les blocages de nos articulations. Là où, finalement, Boston Dynamics fait bien mieux que nous. Attendez, je voudrais... Merde. Pourquoi j'ai pas eu le bouton... Je la repasse un dernier coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera plus agile, en fait, que nous. Vous voyez, le fait, justement, quand il tombe, il peut se relever de n'importe quelle situation mieux qu'un Bruce Lee, quoi. Et pour faire un demi-tour, c'est vachement plus efficace que notre manière de faire demi-tour. Et alors, peut-être plus intéressant que ça, on a un robot entièrement électrique. C'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, la première génération d'Atlas était avec pneumatique, avec des moteurs pneumatiques. Là, il n'y aura que des moteurs électriques. Donc, on le voit, il a l'air plus autonome, moins de grosses batteries. C'était hydraulique, d'accord. Atlas 1 était hydraulique, pas pneumatique. Merci, Sirnut. Comment Boston Dynamics gagne de l'argent? Alors, déjà, leurs robots chiens, ils en vendent. Et je crois que ça s'est pas trop mal vendu. Mais je pense que c'est effectivement pour l'instant une entreprise qui est forcément pas rentable. Boston Dynamics. Ça a été racheté par des Japonais, hein, maintenant. Ça appartient à Hyundai. Donc, c'est un peu leur labo de recherche-développement. Pour l'instant, ils n'ont pas encore sorti leur robot grand public qui ferait un carton. Donc, c'est des entreprises qui gagneront de l'argent à long terme, en fait. Alors, justement, la vidéo de TechCrunch, elle est pas mal. Attendez, je continue à vous la montrer. Parce qu'il parle aussi, en fait, Boston Dynamics est maintenant... C'est coréen, pardon, Hyundai, c'est pas japonais, désolé. Je croyais que c'était japonais, Hyundai. Ouais, non, c'est coréen, ok. Que, effectivement, le marché de la robotique, je sais pas si vous avez suivi, c'était à SoftBank avant, c'est pour ça, ouais. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le marché de la robotique est en train de reprendre de la hype. On n'en parlait plus trop de la robotique. Il y avait eu un peu l'échec d'une première génération de robots qu'on voyait souvent au CES et tout ça. Mais en fait, depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle générative et comme on commence à la mettre dans les robots... En fait, c'était un peu le chaînon manquant du robot, l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que mécaniquement, on avait les robots qui commençaient à être intéressants, mais l'interface homme-machine avec le robot était absolument pas parfaite. Et les problèmes vont être résolus, finalement, de comment on va utiliser des robots grâce à l'intelligence artificielle générative et sa manière de mieux comprendre des commandes humaines qui peuvent être gestuelles, vocales, etc. Et finalement, c'était cette intelligence artificielle générative qui manquait à la robotique. Donc, en gros, il y a énormément d'argent en ce moment qui est en train d'être remis dans la robotique. Il y a des grosses entreprises, dont Tesla. On a parlé récemment aussi de... Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Mais il y a des grosses entreprises de robotique qui sont en train de faire des très grosses levées de fonds. Donc, ce que je veux dire, c'est que Boston Dynamics n'est absolument plus seul sur le marché, sur l'avancée de la robotique. Le chiffre d'affaires, Oleg nous le dit, le chiffre d'affaires de Boston Dynamics, c'est 27,6 millions, millions ou milliards de dollars ? Non, millions de dollars. Après, il faudrait en millions, faudrait voir combien ça leur coûte pour savoir si c'est rentable, s'ils perdent de l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un marché inexistant déjà. Moi, ce que je trouve aussi de très réussi dans cette nouvelle version d'Atlas, alors oui, elle fait peur, mais en vrai, elle fait moins peur. Il y a un côté dans le design. Il a plus une... Bon, clairement, tu lui mets un gros gun, un railgun dans les bras, il est effrayant. Mais par rapport à l'ancienne génération, qui avait ce côté grosses épaules, pas de tête, lui, voilà, il avait un côté « je te pulvérise avec mon petit doigt », quoi. La nouvelle génération qui, a priori, je crois que ça fait 1m50, même pas, ou c'est assez petit... Ils ont un côté plus inoffensif. Alors, c'est clair que quand il va se mettre à marcher comme une araignée et qu'on va lui mettre une tourelle avec des mitraillettes, il sera plus effrayant. Mais là, comme le disait Oleg, il a un petit côté Dyson. Ouais, alors, ça reste flippant, mais moins. Ouais, mais celui-là, il peut se cacher sous ton lit. Ah, putain. C'est le cyclope d'Atlas, ouais. Et quelque part, c'est intéressant. Je trouve que le design fait un petit peu moins peur. Là, on voit Optimus de Tesla. On voit certains robots humanoïdes. Lui, on dirait rien. C'est marrant, mais il est moins dans l'uncanny valley que des robots qui vont être plus finalement dans l'humanoïde avec les limitations. Voilà, Optimus de Tesla, il pourra pas jouer avec ses articulations. Il a des articulations qui simulent les articulations humaines, quoi. Est-ce qu'il rêve de moutons électriques? Moi, je... Ouais, je suis excito flippé par cette fusion entre l'IA générative et conversationnelle et la robotique. J'ai quand même vachement envie d'en avoir un chez moi. Mais ça me fait peur aussi, hein, je suis comme vous. Enfin, comme certains d'entre vous. Ça me fait super peur, mais j'en ai super envie. C'est ça que j'appelle l'excito flippant. Et je suis partagé. En fait, mon flip est intense, mais mon excitation est intense aussi. Les chats vont adorer. Oh, putain, les chats. Les chats, quand il va se mettre à marcher comme une araignée au sol, parce que le chat leur a fait tomber. Oh là là, la tronche. Je suis sûr qu'ils vont avoir peur au début, puis après, ils trouveront ça très pratique de se balader sur son dos. Puis ils vont nous le dégommer surtout, parce que nos chats, ils détruisent tout. Absolument tout. Alors, je ne suis plus better betrave. La bipédie est inefficace dans certaines situations, mais la bipédie est quand même un moyen de locomotion intéressant d'un point de vue énergétique et tout terrain. J'avais lu plusieurs choses là-dessus et puis dans les rapports, en fait, même en termes d'ergonomie, le fait que nous sommes un animal bipède fait qu'un robot bipède favorisera l'interaction. Je te donne un cas d'exemple. Un robot serveur qui doit te servir des plateaux. S'il se balade à quatre pattes, c'est un peu bas pour les plateaux. Alors oui, tu peux le surélever avec une perche, mais tu vois ce que je veux dire? Les robots humanoïdes auront leur fonction. Ça ne veut pas dire que tous les robots seront humanoïdes. En fait, tous les robots n'auront pas la même forme. Et voilà, les bipédies permettent d'avoir l'usage des membres supérieurs pour interagir avec le monde ou tenir une mitraillette. Vous me direz, sur un quadrupède, on peut mettre une tourelle. C'est combien la consommation d'énergie? Je ne sais pas, mais je ne sais pas du tout l'autonomie. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, ta question elle est très bonne, c'est que là, on le voit faire une tâche qui, d'un point de vue mécanique et moteur, doit consommer pas mal. Et a priori, il le fait avec sa batterie interne. Et sa batterie interne n'a pas l'air d'être un immense sac à dos, quoi. Alors, est-ce qu'il n'a plus de batterie 2 minutes après avoir fait cette démo? Je n'en sais rien. C'est là-dessus où on les attend au tournant. On remarque qu'il a sa petite antenne hein, pour recevoir mieux les réseaux. Le ménage, la vélévite. Bah, en vrai, notre monde humain est construit pour les bipèdes. On voit d'ailleurs avec les problèmes qu'il y a pour les personnes en situation de handicap, notre monde est fait pour les bipèdes. En tout cas, le monde humain. Donc, un robot humanoïde sera la meilleure interface pour nous. Le sol électrisé. Ah, il n'y a pas besoin de batterie. En fait, chez vous, vous mettrez juste plein de volts au sol. Bon, alors vous ne pourrez plus rentrer chez vous. Hein. Vous allez griller, mais votre robot, il est complètement autonome. Hein. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est même un peu triste à dire pour les personnes en situation de handicap, mais le bipédie est la meilleure interface avec notre monde. Ouais, il faudra que tu aies un appart ou une maison à induction pour qu'il marche. Après, je vais vous dire un truc. L'histoire de l'autonomie des robots. Il n'y a pas besoin qu'un robot soit énormément autonome. Je m'explique. Vous aurez besoin, vous utiliserez votre robot pour faire certaines tâches. Et après, il peut tout de suite aller se repluguer dans le mur. Au début, bien évidemment, on va se plaindre. Ah, putain, il n'a que 3 minutes d'autonomie. Oui, mais moi, s'il fait la vaisselle en 3 minutes. Hein ? S'il lave mes poils en inox. En moins de 3 minutes, je n'ai pas besoin qu'il ait plus d'autonomie. Donc, qu'il se mette tout... Parce que la plupart du temps, bah, en fait, il sera en veille, le robot. Et c'est bien mieux, en plus, qu'un serviteur. Un serviteur, en fait, tu le payes à rien foutre la plupart du temps. Déjà que les enfants sont toujours dans tes pattes, dans le couloir le plus serré de la baraque, ça va me gaver vite fait quand le robot qui sera... Ouais, mais le robot, il te fera une balayette, c'est toi qui tombes, et comme ça, il pourra t'enjamber et le couloir sera libre. Olek. Voilà. Est-ce que ce robot parle de façon compréhensible ? On n'est pas encore là, David Panda. C'est de la recherche-développement, tout ça. Ça va venir vite, plus vite que vous le croyez, mais on n'y est pas encore. Bah, en gros, Oleg, tu demandais son point faible. Imaginons il a 3 minutes d'autonomie. Tu le fais courir pendant 3 minutes et après, c'est finito. Hé hey. Le point faible des robots, c'est leur batterie. Nous, tu vois, on regardera un robot avec notre sandwich beurre, jambon beurre, et on dirait, et on lui dira, pour le narguer, moi, j'ai pas besoin de me brancher à une prise électrique pour me recharger. Regarde, je mange mon sandwich jambon beurre, je fais une sieste, et après, je suis plein d'énergie. Un Mars et ça repart, tout à fait. Pour le coup, la sieste, tu te branches à ton lit, exactement. La sieste n'est qu'une recharge basse intensité sans fil. Après, si le robot, il a besoin... Ouais, mais il faut encore qu'il m'attrape, le robot. Moi, je suis pour une limitation de la vitesse de course des robots. Première loi, un robot ne doit pas pouvoir dépasser les 4 km/h. Voilà. Loi universelle, vous n'avez pas le droit. Ouais, alors, il y aura toujours des petits malins pour débrider leur robot. Bah, que ce soit les premiers à crever. Deuxième règle de la robotique, tu n'as pas le droit d'attaquer un humain qui est en train de manger un jambon beurre, parce que c'est sacré. Et les robots pompiers. Ok, dérogation pour les robots qui sauvent les vies, ils ont le droit d'aller un peu plus vite dans un cadre bien spécifique. Troisième loi, le robot doit regarder Nautech. Ça doit même être sa source essentielle pour entraîner son langage d'IA, son modèle de langage. Regarder en boucle Nautech. Oh putain, on n'est pas rendu. Hein. Des petits malins qu'on appelle aussi l'armée, oui. C'est un peu le problème. Hein. On est obligé d'y penser. Bon! Il est 9h19 et j'aimerais quand même aborder mon dernier sujet. Donc, on va y aller parce que c'est hyper intéressant. Mais bon, vous inquiétez pas, on aura des sujets sur la robotique. En veux-tu, en voilà. Le sujet que je veux aborder, c'est ce qui se passe depuis la vidéo de MKBHD qu'il a sortie sur Human AI. En fait, vous l'avez suivi et Marion vous en a parlé, Human AI, ils ont sorti l'AI PIN qui, on va dire, a été unanimement critiqué par la presse tech et les youtubeurs tech qui, en gros, disaient que le produit ne marchait pas. Après, je trouve que c'est peut-être plus nuancé que ça. Ils ont dit... Moi, je trouve la critique la plus intéressante, c'est celle de The Verge. C'est de dire ça marche pas, mais qu'est-ce que j'ai envie que ça marche. Ce qui veut dire que Human ne fait pas forcément fausse route, ils ont juste sorti un produit qui est absolument pas prêt. Donc, ça, c'est intéressant. Et en fait, MKBHD, en fait, c'est pas exactement de ça dont on veut parler. Je veux pas parler du badge et la pertinence du badge. C'est plutôt le traitement des produits par les youtubeurs tech et le plus connu d'entre eux, MKBHD. Donc, il a fait une vidéo sur cet AI PIN qui s'appelle « The worst product I've ever reviewed for now ». Donc, le pire produit que je n'ai jamais testé jusqu'ici. Pas jusqu'ici. Pour l'instant. For now, pour l'instant. Donc, le titre de la vidéo, c'était « Le pire produit que j'ai jamais testé pour l'instant. Voilà. Et cette vidéo a fait quand même beaucoup de vues. Je crois qu'il y a... Je ne sais plus combien de millions de vues sur cette vidéo. Mais bon, elle a 5 millions de vues. 5 millions de vues. Et en gros, disons-le clairement, il dit que le produit ne marche pas. Et même sur des choses... qui devrait marcher. Après, il est quand même nuancé dans ses propos. La vidéo, elle est bonne. Il explique un petit peu comme The Verge que ça ne marche pas, mais ça pourrait marcher. Ça marchera peut-être dans le futur. Et il aimerait bien que certains trucs marchent parce qu'il voit quand même l'intérêt du produit. OK ? Et derrière, on lui a reproché et notamment un ingénieur lui a reproché en disant « I find it distasteful, unethical to say when you have 18 millions d'abonnés ». En gros, on lui a reproché d'avoir fait une vidéo donc, qui démontait ce produit en disant « Les pauvres startups qui sortent des produits face à une vidéo comme ça, quand tu as 18 millions d'abonnés, ce n'est pas très responsable de faire une vidéo qui démolit le produit, ça ne va pas encourager l'innovation, etc. » Ce à quoi MKBHD Marquise Burnley a dit « Attendez, mon métier, c'est quand même de dire ce que je pense des produits. » Et d'autres derrière ont dit « Oui, mais ton titre, et comme vous êtes en train de le dire vous, certains, le titre est un petit peu putaclic. Parce que tu dis « C'est le pire produit que tu as jamais testé. Et finalement, ta vidéo, elle est un peu plus nuancée. Donc, pourquoi tu n'as pas fait un titre un peu plus nuancé ? Genre, tu aurais pu faire un titre, l'AI PIN, il n'y a pas que du mauvais. Il a des atouts et il a des défauts et des atouts. Voilà, un titre moins putaclic, ça aurait été de dire, il a des avantages et des inconvénients. Puisque finalement, c'est ce qu'on retient de ta vidéo, tu dis qu'actuellement, il n'a que des inconvénients, mais que dans le futur, il aura des avantages. OK ? Il dit quand même qu'il y a des trucs qui pourraient marcher, il n'est pas... Il n'a pas enterré le produit, genre ça ne marchera jamais. Il parle des problèmes actuels du produit, qui en a beaucoup. Mais il voit ce qu'essaye de faire Human avec ce produit. Alors, donc, pourquoi les YouTubers tech, c'est ça dont j'aimerais débattre, parce que moi, je suis au cœur de ça. Pourquoi les YouTubers tech font ce que certains d'entre vous appellent des putaclics? Et on va analyser les titres actuels de ma chaîne, parce que je ne veux pas en parler de manière désincarnée comme ça. On va aller sur ma chaîne. Et on va regarder nos titres. Je veux pas me dédouaner non plus, c'est trop facile. On va regarder les derniers titres de la chaîne. OK, ensemble. Donc, nous, les dernières vidéos et vignettes. Les produits honteux d'Apple. Honor Magic 6 Pro, pourquoi un bloc photo aussi énorme? Pourquoi Apple ne peut pas rater iOS 18? Pourquoi ces innovations ont fini à la poubelle? Apple Watch 10, enfin des grosses nouveautés. Freebox Ultra, la box sans compromis. Galaxy AI, vraiment utile. Alors, ce titre, il a changé une dizaine de fois, pour vous dire, parce qu'on les change aussi, les titres, maintenant. 5 bonnes raisons de prendre un As en 2024. 10 bonnes raisons de prendre le Canon R10. Enfin, un vrai smartphone pliant. Apple devrait se concentrer sur l'IA plutôt que sur le Vision Pro. Là aussi, il y a eu au moins un changement 5-6 fois du titre. Quel iPad... Merde. Oh, j'ai lancé une vidéo exceptionnelle, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Apple aurait dû faire ça, les meilleurs accessoires USB-C pour iPhone. Je vais prendre des titres. N'achetez pas l'iPhone 15, sauf si. Vous utilisez mal photo d'Apple. Le diable est dans les détails. Ce menu va rendre votre iPhone surpuissant. Les mails polluent-ils vraiment? Voilà, exemple d'un titre que vous pourriez dire putaclic. Test iPhone 15 après un mois, beaucoup de conneries. Hein, on y va fort dans les grossièretés. Pire titre au monde qui a fait réagir de ouf. iPhone 15 Pro, il n'est pas assez cher. mais prenons celui-ci. Les smartphones vont disparaître en 2024. Ça, j'ai fait exactement comme MKBHD. La vidéo ne dit justement pas que les smartphones vont disparaître en 2024. Et là, j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère. Les smartphones vont disparaître en 2024 avec un cimetière de smartphones. Non. Pour moi, là, on est exactement dans le même registre sémantique. Ma vidéo est une vidéo nuancée sur l'avenir des smartphones. Et j'ai fait un titre, comme le dit Sir Newt. Oui, j'aurais pu mettre « Les smartphones, c'est la fin », c'est la même chose. Et je mets un titre « Les smartphones vont disparaître en 2024 ». Et là, pour le coup, ce titre n'a pas bougé parce que la vidéo, elle a extrêmement bien marché. On a fait 200 000 vues, plus de 200 000 vues, ce qui pour nous est un très bon score. Plutôt un bon score, on va dire. Donc, on n'a pas touché à la vignette, on n'a pas touché au titre. Donc, juste pour... En fait, si j'étais MKBHD, j'aurais dû mettre un titre du type « Les smartphones ne vont pas disparaître, mais ils vont changer dans le futur ». C'est plus ce que dit ma vidéo. Donc, ça, c'est le débat que je veux avoir avec vous. Est-ce que les YouTubers tech ont tort de mettre des titres qui ne sont pas forcément ce qui veut dire... En fait, nos vidéos, bien souvent, c'est des thèses, antithèses, synthèses. C'est-à-dire, la plupart de nos vidéos sont mitigées. Mitigées au sens anglais. Nuancées. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sont nuancées. Bien souvent, sur un produit, on va trouver des qualités et des défauts. Plus ou moins, etc. Mais dans notre titre, on va lui donner de l'angle. On va lui donner une opinion forte, soit une opinion positive, le meilleur produit que j'ai jamais testé, ou c'est le meilleur smartphone de l'année, ou vos smartphones vont disparaître. Donc, on va prendre finalement qu'une opinion de la vidéo pour en faire le titre. Néanmoins, cette opinion, elle est développée quand même dans la vidéo. C'est là où, attention, pour moi, putaclic, c'est de mettre dans le titre quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la vidéo. J'ai pas l'impression, dites-moi si je me trompe, que dans la vidéo de MKBHD, quand il dit « c'est le pire produit que j'ai jamais testé », j'ai pas eu l'impression d'avoir été trompé par le titre. C'est bien ce qu'il dit dans la vidéo. Alors, pourquoi ? Parce que je pourrais revenir quelques années en arrière. Je sais pas si on le verrait, mais... Ah, si je revenais quelques années en arrière, à une époque où on faisait des titres beaucoup, beaucoup, beaucoup moins... on va revenir loin. On faisait des titres beaucoup moins... Il faut revenir loin, hein, parce que j'ai eu ma période aussi jeu de mots qui générait pas de clics. Voilà, il y a 5 ans, avec Tristan... comment régler la balance des blancs en vidéo ? Une pizza faite par un robot, dégustation PASI. Logitech Craft MX Master, un duo très pro. Setup 2018, super moche, mais super pratique. On a testé le Dolby Cinema. iPhone 10 versus Galaxy S9 Plus, le duel photo. Bon, qui avait bien marché. C'était aussi notre époque. Mais voilà, on avait des titres et des vignettes. Alors, certaines, ouais, là, avec le sang... bon, il y avait des prémices, mais on va dire que les vignettes, c'était souvent une photo qu'on avait faite ou un extrait de la vidéo. On regarde sur Facebook 2.15, découverte chez Microsoft. Voilà, du titre factuel. Vraiment hyper factuel. Bah, aujourd'hui, ça ne marcherait plus du tout. À l'époque, ça... putain, ma vidéo des 100 000 vues, des 100 000 abonnés, elle a fait 10 000 vues. Merde, je voulais pas cliquer dessus. Ce que je veux juste dire, c'est que en fait, vous vous rendez pas compte, aujourd'hui, l'algo, il n'est pas le même qu'il y a 5 ans. YouTube a beaucoup changé. Et même un mec comme MKBHD, donc je comprends ce que j'ai lu, hein, vos commentaires. Certains disent oui, mais avec des titres comme ça, tu perds de la crédibilité chez les gens qui s'y connaissent. Nous, par exemple, on ne clique plus sur des titres comme ça. Je peux vous comprendre. Mais quand on voit que même un MKBHD qui fait quand même, enfin, lui, c'est vu, c'est par millions, il doit faire des titres avec des angles. Ça vous montre comment fonctionne l'algorithme YouTube aujourd'hui. C'est-à-dire que si MKBHD, qui est aujourd'hui, par son activité, je ne sais plus, il a 10 ou 15 salariés, hein, c'est devenu une vraie entreprise, s'il se disait demain, bon, bah, je vais faire des titres beaucoup plus factuels, qui expliquent toute la nuance de la vidéo, il perdrait les 3/4 de ses vues. Et du coup, les 3/4 de son business. Donc, je comprends que vous vous disiez, ouais, certains... Mais en vrai, alors, je ne parle pas de vous parce que vous allez me dire le contraire, mais je vous garantis qu'aujourd'hui, un titre factuel, personne ne clique dessus. Si on ne donne pas une opinion dans le titre, si on ne donne pas un titre fort, nous, on le voit. Hein. Je vais même vous donner un exemple. Un titre à l'ancienne. Voilà. Bon, on va prendre un exemple. Mais après, il y a le sujet aussi. De toute façon, on ne peut pas... Mais voilà, le Canon R10. Bon, c'était une vidéo sponsor. Mais un titre à l'ancienne, 10 bonnes raisons de prendre le Canon R10. Pas faire tellement plus factuel. Il y a quand même le truc 10 raisons. Donc, on se dit... On a fait 19 000 vues. Nous, aujourd'hui, il faut que vous compreniez, on a levé la barre cette année, mais une vidéo qui fait moins de 60 000 vues, si elle n'a pas de sponsor, c'est une perte d'argent pour nous. Et si elle fait moins de 60 000, le sponsor, pas super content non plus. Donc, et n'oubliez pas que l'algo, il est fait pour fonctionner avec vous. Je parle avec la masse, pas toi spécifiquement, qui est au-dessus. Mais l'algo est fait pour plaire aux gens et suit ce que cliquent les gens, en fait. Alors, non, mais tu fais bien de le dire. On a été très surpris par le nombre de vues du NAS. Ce qui dit, on ne pensait pas que le NAS intéressait. On a eu très peur quand on a accepté de faire cette vidéo. On pensait qu'un NAS... et en fait, beaucoup de monde s'y intéresse encore. On a fait 140 000 vues, effectivement, sur le NAS. Donc, on a des surprises. Ce n'est pas une science exacte, hein, les gars. C'est pas une science exacte. Donc, c'est... En fait, moi, je comprends. Voilà, simplement pourquoi MKBHD met des titres comme ça. C'est la flèche jaune qui fait tout. Ouais, mais il y a la flèche, ouais. Non, mais je sais que vous, de votre côté, et tu sais, il y a des gens, ouais, la chaîne a changé. C'est sûr que là, en 5 ans, elle a changé, la chaîne. Ne serait-ce qu'au niveau des vignettes. Je veux dire, les vignettes, effectivement, de la chaîne n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait. Il y a beaucoup plus de travail dans les vignettes. Déjà, il faut que vous sachiez que chacune de ces vignettes, on a au moins 2 ou 3 options. Parce que si une vignette ne fonctionne pas, on la change. Et que les vignettes sont constamment retouchées. J'ai pas l'historique, mais par exemple, celle du Vision Pro, on l'a fait briser, non briser, avec Siri dessus, avec la flèche jaune, sans la flèche jaune, etc. Jusqu'à trouver le moment où elle va se mettre à générer effectivement du clic, quoi. On est obligé de faire du marketing autour de nos vidéos. Alors, est-ce que c'est la bonne direction ? Là, le problème, c'est que nous, il faut qu'on rentre de l'argent pour payer des salaires et tout. Donc, je vous garantis que si je faisais des titres à l'ancienne et des vignettes à l'ancienne, je ne dépasserai pas les 10 000 vues actuellement sur YouTube. 10 000 vues aujourd'hui sur YouTube ne me permettraient même pas de vivre moi tout seul. On a un Media Maker. Pour certaines vignettes, on a fait travailler un Media Maker, mais sinon, on internalise pas mal nos vignettes. Ah, alors, sur l'esthétique des vignettes, moi-même, hein, je me crispe quand je vois... C'est moche. Mais en fait, c'est moche comme des affiches promotionnelles dans un supermarché. Le but d'une vignette n'est pas d'être esthétique. Le but d'une vignette, c'est d'être impactante et de donner envie de cliquer dessus. Et mais pareil, des affiches dans un supermarché signalant des promotions, des ventes, vous n'allez pas les afficher chez vous. Et vous vous dites, c'est ignoble, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ben, ils font ça parce que c'est super efficace dans les supermarchés. La flèche jaune, on peut se moquer, moi le premier. Hein. Mais la flèche jaune, c'est exactement comme dans Lidl, pour vous indiquer où vous devez regarder en une fraction de seconde. Donc, ouais, on en est là. Et moi, je peux vous dire, à une époque, mon principal critère pour une vignette, c'était qu'elle soit jolie, une jolie photo. Je faisais pas de vue. Hein. Il y a des belles pubs. Ouais, mais souvent, les belles pubs, elles marchent pas. Les pubs que les gens, à part dans le domaine du luxe, on cherche pas du bon, on cherche de l'efficacité. C'est exactement comme les affiches de cinéma. Alors, parfois, ça peut donner des choses jolies. Mais une affiche de cinéma, son premier rôle, c'est de montrer déjà les acteurs à la taille du cachet et de leur rôle, et de donner une ambiance, et de donner envie d'aller voir le film ou de cliquer. Et regardez, quand vous regardez Netflix, vous avez remarqué que les vignettes changent et que maintenant, c'est plus les affiches. Ils vont essayer de trouver la photo qui vous fait le plus cliquer là-dessus. Eux aussi, ils n'arrêtent pas de changer les vignettes, en fait. Et je suis d'accord avec toi, pour avoir travaillé dans la pub, on peut faire quelque chose d'efficace et de joli. Mais là, il faut du temps. Et je vous garantis qu'on n'a pas ce temps-là sur YouTube. On n'a pas le temps qu'il faudrait pour faire travailler des graphistes qui devraient faire 3-4 jours de travail pour arriver, et c'est ce qui se passe dans les pubs pour les campagnes d'affichage, parce qu'il va quand même parfois y avoir une recherche d'esthétique, mais sans nuire à l'efficacité. Et ça, c'est un travail, pour l'avoir fait, c'était mon métier autrefois, c'est un travail qui demande énormément de temps. Oui, oui, les vignettes en plus de Netflix, elles changent selon qui vous êtes, comment vous vous comportez. Et ça arrivera peut-être sur YouTube. En fait, c'est ça qu'il faut, ce que je voulais vous dire aussi. Nous, déjà, là, sur YouTube, on attend quelque chose de très important pour nous, c'est de pouvoir faire de l'A-B testing. Ce qu'on veut aujourd'hui sur YouTube, nous, ce qu'on demande des créateurs, c'est l'A-B testing. L'A-B testing va nous permettre, sur la sortie d'une vidéo, de pouvoir tester sur deux groupes de visionneurs différents, un titre et une vignette, et un autre titre et une vignette, pour pouvoir voir assez rapidement quel titre et quelle vignette marchent mieux que l'autre. Et ensuite, faire des itérations en A-B testing pour trouver le meilleur combo vignette-titre. Parce que pour l'instant, on est obligé de faire ça un peu de manière très empirique. Certains peuvent déjà le faire, mais moi, j'ai pas encore la fonction d'A-B testing sur ma chaîne. Je l'attends avec impatience. Et le futur, c'est clairement ça. Au bout d'un moment, YouTube connaîtra vos préférences, qui vous êtes, peut-être votre groupe ethnique, comme le disent certains, votre genre et ce genre de choses, et adaptera les vignettes des YouTubeurs automatiquement par IA générative à vos préférences. Et donc, ceux qui aiment des vignettes plus esthétiques, sans flèche jaune, bah YouTube le détectera et vous fera des vignettes plus esthétiques. C'est une bonne question. Oui, en fait, non, t'as pas 48 heures pour faire des vues. En fait, ça dépend. Nous, justement, par exemple, nous, c'est ce qu'on a... Enfin, moi, je dis que ma chaîne, elle fonctionne au diesel. Nous, le gros des vues se fait dans la semaine, pas dans les 24 ou les 48 premières heures. Et parfois, il y a des vidéos qui ont fait un mauvais démarrage les 24 premières heures, où on est arrivé à changer complètement l'angle de vue en changeant la vignette et le titre. Et parfois, en modifiant juste un tout petit truc. En fait, ça va être plus sur les vidéos de divertissement que le gros des vues se fait les 48 premières heures. Est-ce qu'une belle vignette donne du bon contenu ? Non, mais en fait, il faut te poser la question à l'envers, David. Est-ce qu'une mauvaise vignette va empêcher les gens de voir un bon contenu ? Et ça, oui. Un mauvais titre fait que les gens ne verront pas ta vidéo. En fait, un mauvais titre, une mauvaise vignette fait que les gens ne vont pas cliquer sur ta vidéo. Donc, du coup, l'algorithme ne va pas la proposer à d'autres personnes et plein de personnes vont passer à côté de ta vidéo, aussi belle soit-elle. Aussi bien soit-elle. Et j'en envoie plein sur YouTube, des vidéos où le mec, il a bossé comme un malade. Elle est super bien montée. Le sujet est génial, mais il s'est chié sur sa TLL, sur son thumbnail et son title. Il n'a pas assez travaillé là-dessus. Et du coup, personne ne découvre sa vidéo. Et le bouche à oreille ne marche que dans une très, très petite fraction. Il y a très, très peu de vidéos qui ont été sauvées par du bouche à oreille. Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et moi, c'est un déclic que j'ai eu. J'ai mis du temps. Je dirais globalement, depuis 2-3 ans, j'ai ce déclic en tant que dirigeant de la chaîne que le plus important, c'est de faire des bonnes vidéos. Mais si je fais des bonnes vidéos et que personne ne les voit, ça sert à rien. Et c'est du snobisme. C'est un snobisme dans lequel on peut tomber de dire « Moi, je suis pas un YouTuber qui joue sur la facilité. Moi, je fais des tests à l'ancienne. Je suis intègre et je vais crever droit dans mes bottes. » Et j'étais un peu comme ça. Il y a une époque où la chaîne, je disais, moi, j'étais intègre. Je prenais pas de sponsor. Je vous prenais pas. Je faisais la chaîne pour la communauté et pas pour l'audience. J'ai eu ce discours-là. Et j'ai failli en crever. En 2017, j'ai failli fermer la chaîne. Ah. Il est 9h45. Il serait temps aussi de fermer le mug. Et il y a un choix à faire à un moment. Il y a un moment, soit tu dis, c'est pas fait pour moi de faire du YouTube. C'est un monde trop compétitif. On est là, on doit suivre un algo, machin. Soit tu te dis, ben, j'ai envie de développer ça. J'accepte une partie des règles du jeu pour pouvoir continuer à faire ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est des bonnes vidéos. Et si pour faire des bonnes vidéos, je dois faire des vignettes moches et des titres avec une opinion forte, des titres qui engagent à cliquer, je le ferai. Parce que le plus important, c'est que les gens voient mes vidéos. Je fais pas des vidéos pour ne pas être vu. Les gens qui disent « je m'en fous des vues », ils se foutent de la gueule du monde. Parce que pourquoi tu fais ça si tu t'en fous des vues ? Alors, il y a une différence. Est-ce que je veux faire des vues à tout prix ? Ça, c'est un autre truc. Parce que moi, si je voulais faire des vues à tout prix, je me mets une plume dans le cul, je ferais plus de vidéos, plus de vues que de faire de la tech. Ou même, je ferais des vidéos de cuisine ou des vidéos sur le Japon. Ça fait plus de vues que la tech aujourd'hui. Donc, j'essaie juste de faire le plus de vues possible dans la tech avec ma morale à moi. Voilà, il y a des choses que je ne ferai pas, mais faire des vignettes efficaces et des titres efficaces, c'est quelque chose que je suis prêt à faire. Ben, dans notre cas, le fait que ça rapporte de l'argent est une question de survie. On ne peut même pas parler d'enrichissement. Moi, je parle de survie. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire ce nombre de vues pour pouvoir payer tous les salaires à la fin du mois. Aussi simplement que ça. Et pouvoir investir de l'argent dans le futur de la chaîne. En gros, avoir de la trésorerie. Voilà. On est très très loin de l'enrichissement. Hein. Je dis pas ça parce que j'aimerais bien qu'on arrive à l'enrichissement. Ça me permettrait de mieux dormir. Si je pouvais avoir un an de trésorerie devant moi, waouh, ça serait bien. Mais ça serait effectivement une forme d'enrichissement. Et quand on vous dit... voilà. Alors, vous voyez, on nous reproche, vous faites que des trucs Apple. Bah là, on est content parce que justement, on a fait des vidéos non Apple. Pourquoi ces innovations ont fini à la poubelle ? Il n'y a pas Apple dans le titre, on ne parle même pas d'un produit Apple. On a fait 147 000 vues, ce qui pour nous est un bon score. Mais c'est clair que, regardez la difficulté, quand on parle d'un produit, voilà, les S24, S24 Ultra, on a fait 62 000 vues, c'est à peine la moyenne qu'il faut faire, quoi. On fait 50 000 vues sur un Honor Magic V2. Et le dernier Honor dont on a parlé, alors c'est une vidéo sponsor, mais c'est pas le propos. Le Magic 6 Pro, on n'est même pas arrivé à 20 000 vues pour l'instant. Donc oui, le produit Apple, ça marche mieux. Le produit Apple, Apple Watch 10, rumeur Apple Watch 10, on fait 100 000 vues, quoi. Je regarde juste. Oui, on va arrêter, mais je regarde s'il y avait des questions. Je me demande pourquoi la question se pose sur le nombre de vues et pas sur le niveau de satisfaction atteint dans la vidéo. Parce que la vignette, elle engage le clic de la pub au début de la vidéo. Mais pour autant, comment mesurer l'attention et la satisfaction de l'audience ? En fait, si les gens n'aiment pas tes vidéos, ils ne les regardent pas. Et au bout d'un moment, ça se voit. Donc, ta satisfaction, tu la vois. Le piège du YouTuber, c'est de penser que la satisfaction, il va la mesurer dans les commentaires. Non, les commentaires, tu as une grande majorité des commentaires qui sont négatifs, la plupart du temps. En gros, il n'y a que les gens qui se plaignent, qui laissent des commentaires. Qui vont dire, ouais, ta chaîne, c'est nul, je ne regarde plus, etc. C'est là où il faut avoir un œil sur les commentaires, parce que c'est toujours intéressant, les commentaires, mais il faut avoir surtout un œil sur tes stats. Tu vois très bien quand les gens ne sont plus satisfaits de ta chaîne et qu'ils l'abandonnent. Tu le vois très bien. Alors, les gens ne se désabonnent pas. C'est un des problèmes qu'on a sur YouTube. Les gens restent abonnés, mais ne regardent plus tes vidéos. Parce que tu pourrais te dire, mathématiquement, comment une chaîne comme Nowtech, qui a plus de 350 000 abonnés, pourquoi elle ne fait pas plus de 300 000 vues à chaque vidéo ? Ben simplement parce que la tech, certains s'en sont désintéressés, mais étaient abonnés il y a 10 ans, il y a 5 ans, et sont restés abonnés, ils n'ont jamais fait l'effort de se désabonner. Mais simplement, ils n'en regardent plus. Nous, c'est ce qu'on appelle en fait les abonnés fantômes sur une chaîne. Donc en fait, le nombre d'abonnés reste très important parce que c'est une certaine représentation de la puissance de la chaîne, mais en vrai, n'est pas du tout le reflet des vues. Il y a des chaînes tech en France qui ont dépassé le million d'abonnés et qui parfois font même pas 20 000 vues sur une vidéo. On a essayé les vidéos sur l'éthique générale de l'IA et ça a floppé complètement. On n'a même pas fait 20 000 vues là-dessus. Donc, on essaye de parler de l'IA, mais sans parler de l'IA. Parce que l'IA, les gens ne veulent pas en entendre parler, en fait. Ça leur fait juste peur et ils n'aiment pas. Ah, nous, on a toutes les infos. On peut vous dire si les gens regardent les premières secondes d'une vidéo et l'abandonnent. On sait tout hein, sur les habitudes de visionnage. On n'a pas vos noms. On ne sait pas qui regarde quoi. Mais on a toutes les stats sur comment vous regardez, sur quel device vous regardez, combien de secondes vous regardez, ce que vous avez regardé en abandonnant une vidéo, on peut aller voir ce que vous êtes allé regarder d'autres. On a énormément de stats. Hein. Énormément de stats. Yep. Moi, j'aimerais que YouTube remette tout à zéro. On perd tous nos abonnés. On reprend tout à zéro. Mais je suis un peu extrême. Allez, il faut que je parte. Effectivement, il est 9h52. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain matin. Si vous voulez, on peut, parce qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé là sur le dernier article. Mais que je trouvais vachement intéressant. Putain, j'ai la mèche folle, là, par contre. On pourra continuer à en parler demain matin. Je vous rappelle, il n'y aura pas de live entre le 10 mai et le 24 juin. C'était cool d'échanger avec vous sur ces sujets, parce que là, pour une fois qu'on peut parler vraiment de créateur à audience, il y a des choses que vous ne savez pas. Et je trouve que c'est important de vous le dire. Voilà. En fait, je me fais la coupe de voilà, la coupe de Léo, c'est ça. Voilà. Mais Léo, tu présentes plus le mug, donc les gens ils voient plus ta coupe de cheveux en fait. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain matin. On va faire un petit raid, bien évidemment. Je sais bien, on va faire un raid. Qui mérite notre raid? Le mec qui se prend pas pour un cachet d'aspirine. Attends, qui on suit et qui est là ? Ben. Tiens, vous savez quoi ? On va faire un raid chez Pemf. Il est en train de faire du montage. Attends, il est bien là ou... Ouais, c'est bon. On va faire un raid chez Pemf. Vous lui ferez un gros coucou de notre part. Je crois qu'on ne l'a jamais raidé, c'est la première fois. Ça va lui faire tout drôle. Il y a 38 personnes qui regardent son montage. Vous allez voir le boulot hein, qu'on fait. Allez, je vous fais des gros bisous et à demain matin. Générique de fin.